Oh, vous croyez où, là?
Mais au théâtre, mon jeune ami, au grand théâtre de la vie, la représentation commence, les comédiens sont prêts, et le public est là.
Les podcasts de la Haute-Marne.
Et si j'essayais de vous présenter les choses dans l'ordre?
La Haute-Marne est riche de nature, c'est bien connu. Y prendre un temps pour tisser une passerelle avec notre santé est chose facile. Alexandra Henrissa exerce le métier de naturopathe à Montry, près de Colombey-les-Deux-Églises. Plantes, cueillettes, énergie, reiki, nous vous invitons à découvrir sa pratique. Bonjour Alexandra.
Bonjour Géraldine.
Merci d'être ici.
Ben avec grand plaisir.
Pour ce podcast donc sur, dont le thème général est la santé autrement en Haute-Marne. C'est la première qui ouvre un chemin vers beaucoup de podcasts où on va aller visiter comme ça plein de thérapeutes qui travaillent en Haute-Marne.
Très bien.
Donc toi tu es Alexandra, tu es donc naturopathe, praticienne en Reiki et cueilleuse.
Oui, alors productrice plus exactement voilà, de plantes aromatiques et médicinales. Et donc je pratique également la cueillette sauvage.
Donc tu es installée
à Montry.
Voilà, depuis 2015.
Oui.
Tu es originaire de Haute-Marne.
Oui, donc originaire de Montry. Et puis je suis partie dans le sud pendant une quinzaine d'années. Et donc, je suis revenue à Montry, dans mon village, pas natal, mais enfin d'origine.
D'accord. Et du coup, sur le chemin qui t'a amené jusqu'à la naturopathie, ça a commencé dans le sud.
Oui, déjà. Enfin, depuis toujours, en fait, j'ai toujours été attirée, enfin, passionnée, on va dire, par les plantes et la nature. Et puis après, voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier à ce moment-là, en fait.
Et l'idée de revenir en Haute-Marne, c'était une...
Là, c'était plus personnel, on va dire. J'avais envie voilà, de me rapprocher de ma famille et retour aux sources.
Particulièrement pour la nature ou...
Non, parce que c'est vrai que dans la région, j'étais à Toulouse, mais dans la région, la nature est très belle aussi. Donc à ce niveau-là, j'y trouvais aussi mon intérêt. Mais non, c'était plus pour me rapprocher de ma famille. Et puis aussi, voilà, j'avais envie de revenir... en Haute-Marne.
Au pays, comme on est certain à revenir.
Oui,
on est content.
C'est vrai.
Se réinstalle dans nos racines.
Oui.
On retrouve nos sources.
Oui, j'avais vraiment besoin de ça.
Et du coup, avec un métier qui te fait être au cœur de la nature profonde marnaise.
Oui, tout à fait.
Alors juste, si tu peux définir pour toi donc, ton métier de naturopathe.
Oui, donc la naturopathie, en fait, donc, c'est une médecine, on va dire, douce, donc qui n'est pas reconnue en France, mais qui... En fait, c'est une approche holistique, hein, donc où on va s'attacher à la personne en fait d'un point de vue global. Et donc suite à un échange en fait, un entretien, voilà, on va définir un programme d'hygiène vitale. Donc on va faire des corrections notamment au niveau de l'alimentation. Et puis après, donc on a différents outils. Tels que la phytothérapie, l'aromathérapie, les fleurs de Bach, la gémothérapie et donc les techniques énergétiques. Donc moi, j'ai choisi pour ça le Reiki.
D'accord. En fait, donc du coup, ça, il s'agit de rééquilibrer
oui,
le patient.
Oui, c'est ça. Voilà, on parle d'homéostasie, hein, voilà, d'équilibre.
Homéostasie, c'est donc la notion d'équilibre.
Voilà, c'est ça.
Alors du coup, l'équilibre corps-esprit, ou surtout...
Équilibre corps-esprit, mais voilà, l'homéostasie, c'est l'équilibre des fluides et des tissus, en fait, enfin, que tout fonctionne bien,
d'accord,
on va dire.
Et ça se rééquilibre donc par l'alimentation
Par l'alimentation, et puis on peut aussi avoir recours donc, aux plantes sous différentes formes.
Mmh. Donc du coup, tu as ton cabinet de consultation à Montry.
Après, je fais également du domicile, voilà, principalement quand les personnes ne peuvent pas se déplacer. Mmh. Donc, c'est plutôt rare, hein, vraiment. Je travaille plutôt à Montry et j'interviens aussi dans différentes structures sur le territoire, que ce soit des associations, des collectivités.
D'accord, tu peux revenir sur la notion de holistique, peut-être pour les gens qui... pour oui, à qui alors, ça parlerait pas trop.
Alors holistique, en fait, ça veut dire global. Mm. Hein, donc c'est pour ça que c'est une approche, on dit holistique, donc une approche globale, où on va prendre en compte, on va pas s'attacher uniquement aux symptômes ou au physique, mais on va vraiment prendre la personne dans son entièreté.
D'accord, c'est-à-dire ses humeurs, son sommeil.
Oui, tout à fait, voilà, son hygiène de vie, les émotions, etc. Rien n'est séparé.
Donc du coup, toi, tu vois la personne une première fois, tu lui fais une sorte de diagnostic.
Alors, on parle pas. Voilà, on parle pas de diagnostic puisque ça c'est réservé au corps médical. Mmh. Donc c'est vraiment un programme. Moi, j'appelle ça de cette manière-là, d'hygiène vitale. Mmh. Donc qui passe par des corrections. Donc en premier lieu par l'alimentation. Et puis après, il y a tout un petit programme voilà, qui se met en place donc avec, à base de plantes.
Voilà, les quand gens, c'est ils nécessaire. Le tiennent, ils commencent, ils le font jusqu'à leur.
Oui,
au bout de leur vie.
Non, pas au bout. Enfin, le but, c'est de ne pas tout. Enfin, après, les corrections alimentaires, bien souvent, elles vont être intégrées hein, voilà, dans la vie quotidienne. Mais après, les plantes, ça reste vraiment ponctuel. Voilà, c'est selon les besoins. Du moment. Okay. Et en général, oui, les personnes quand même s'y tiennent. Quand elles font la démarche de venir me voir, c'est vrai que ça demande... moi, j'établis le programme, mais après, c'est la personne qui va faire. Oui. Et c'est vrai que ça demande quand même des efforts. Donc, c'est pour ça qu'on y va aussi progressivement et en accord aussi avec la personne pour voir ce dont elle est capable de faire pour l'instant, ce dont elle a envie de faire, d'accord. Pour ne pas mettre la barre trop haute et être en échec.
Mmh. Et du coup, les fleurs de Bac, tu as fait une formation particulière ?
Oui, donc ça, c'est un complément. Ça fait déjà partie de ma formation en naturopathie. Mmh. Je les ai aussi également abordées, parce que j'ai également fait un CS en plantes aromatiques et médicinales donc, pendant un an dans le Jura. Mmh. Et donc là, j'ai abordé les fleurs de Bac et plus particulièrement aussi comment on réalise un élixir floral soi-même.
Ah,
Donc ça, c'est des choses que je propose aussi aujourd'hui en atelier.
Hein, donc oui, ça c'est vrai que je voulais y revenir aussi. Du coup, donc t'as plusieurs choses. T'as donc d'abord les consultations.
Oui.
Et en effet, tu fais donc des ateliers.
Oui.
Où les gens fabriquent...
Donc il y a toujours une petite partie théorique en fonction du thème qu'on aborde. Mmh. Et puis on finit toujours par de la pratique, donc on réalise un produit ou deux produits, voilà, en lien avec le thème abordé. Voilà. Et chacun repart avec son produit. Voilà.
Ouais. D'accord, et donc j'ai eu l'occasion, tu m'as reçu chez toi.
Oui.
On a mangé une bonne petite tarte à l'ortie
Et donc à l'épierre des bois,
j'ai
donc qu'on appelle aussi, enfin le champignon végétal, mm-hmm. Le cèpe végétal parce qu'il a un goût de cèpe. Donc quand il est cuit, il a mélangé à l'ortie, on le retrouve un peu moins. Puis il n'était pas en quantité, enfin majoritaire, on va dire dans le plat. Mais sinon, ça émane, enfin surtout à la cuisson, il y a vraiment une odeur de cèpe qui se dégage.
Et donc là, tu l'as cuiné fraîche.
Oui.
Parce que tu l'as cueilli ces derniers temps.
Oui, voilà, je l'avais cueilli le matin. Mmh. Oui, le matin. En principe, je cueille les plantes fraîches le matin pour les cuisiner dans la journée. Mmh.
Donc c'est le mieux. On est au mois de juin, tu peux nous dire quelles plantes tu arrives à trouver dans la forêt en ce moment?
Oui, donc en ce moment, les pierres des bois. Ensuite, il y a la berce commune, qui est une plante vraiment excellente, enfin une de mes préférées aussi, qui a un petit goût d'agrumes, hein, avec des saveurs un petit peu piquantes selon les parties de la plante, hein, notamment les graines. Donc, les graines sont plutôt très piquantes, la racine aussi. Après, moi, je n'aime pas trop utiliser les racines parce que quand on prélève la racine d'une plante, eh bien, on la tue, on va dire, quoi.
Et oui,
C'est vrai que ça, c'est des choses que je n'aime pas trop faire, à part pour certaines plantes, comme les plantes bisannuelles, puisque la deuxième année, de toute façon, elles auront terminé leur cycle et elles vont mourir. Donc, bon, voilà, ça me pose moins de...
Et on sait qu'elles vont revenir, après.
En fait, elles ont fait leur travail, en fait, de pollinisation. Mm-hmm. Et donc, l'espèce va se perpétuer, les graines vont se ressemer et il y a de nouvelles plantes qui vont arriver.
D'accord.
Et donc, quand elles ont fini, elles meurent au bout de la deuxième année. Okay. En fait, la première année, on a seulement les feuilles. Et la deuxième année, voilà, les fleurs arrivent et donc à l'automne, la plante meurt. Ensuite, il y a l'astragale à feuilles de réglisse, moi que j'aime beaucoup, donc à feuilles de réglisse, parce que voilà, donc c'est une plante de la famille des fabacées, hein, donc des petits pois. Et donc on retrouve ce parfum à la fois de petits pois et un goût très fort de réglisse, vraiment comme du zan en fait. Donc ça, c'est intéressant aussi en cuisine. Qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment? Oui, les campanules qui commencent à arriver. L'ortie, toujours un petit peu. Donc là, les graines commencent à arriver. Donc moi, je commence à cuisiner un petit peu avec les graines. Les graines d'alière aussi, c'est très bon. Ça ressemble un peu au wasabi, ça pique un peu.
Et tu les reconnais comme ça? T'as pas besoin d'avoir ton petit livre?
Maintenant, alors j'ai appris en fait la botanique donc dans le Jura. Donc au départ, ben évidemment, je me promenais avec ma petite fleur. Et puis maintenant, c'est vrai que toutes les plantes locales, je les connais toutes, je pense. Enfin, voilà, c'est très rare que je tombe sur une plante que je ne connais plus ici. Donc c'est pour ça que j'aime bien aussi bouger pour aller découvrir aussi d'autres plantes. Maintenant, j'utilise plus de livres parce que je les connais, en fait.
Mais c'est assez merveilleux de t'imaginer te lever le matin, aller les bois et trouver toutes ces richesses.
C'est ça, oui, faire sa cueillette.
Le marcheur lambda, il passe à côté de tout ça sans savoir.
Oui, et c'est ça qu'on met toujours un peu en avant aussi dans les sorties botaniques que j'organise, que vraiment ça permet de changer aussi ce regard qu'on a sur notre environnement. Et du coup, on est plus attentif à ce qui nous entoure. Et souvent, les personnes sont surprises de voir toute la
richesse,
le panel de plantes, la richesse des plantes locales et toutes les utilisations qu'on peut en faire, que ce soit au niveau culinaire ou au niveau médicinal.
Donc c'est que tu partages aussi ton savoir.
Oui, ça c'est important pour moi.
Ouais. Donc lors de week-end ou de.
Oui, c'est ça, d'ateliers, enfin plutôt de journée, journée, demi-journée, pas encore de week-end. Donc ça c'est des choses que j'aimerais organiser prochainement, je pense l'année prochaine. En plus des petites formations sur des week-ends. Mais là, c'est vraiment plus des journées ou demi-journées.
Voilà, donc c'est sous forme de petites randonnées. Et puis
cueillez. On part en randonnée. Après, j'explique les usages. J'apprends déjà aux personnes à reconnaître les plantes, à les identifier, à surtout ne pas se tromper. Parce que ça, c'est vraiment important. Et puis donc, on parle des usages comestibles et médicinaux, donc des plantes sauvages.
Voilà, et à la fin, tu me dis, vous cuisinez.
Alors, soit il y a des sorties simples, donc où on part juste en nature, et les personnes qui souhaitent cueillir un peu peuvent le faire. Donc on aborde aussi toujours les bases de la cueillette sauvage, respectueuse, on va dire, de l'environnement et des écosystèmes, donc ça c'est vraiment important. Et puis, donc, j'organise aussi des journées cueillettes et cuisine de plantes sauvages. Donc là, en l'occurrence, j'en ai une dimanche prochain au Simone à Château-Villan. Donc là, on part en balade le matin. Moi, j'établis un menu au préalable, donc avec apéritif, entrée, plat et dessert, et plus des boissons à base de plantes. On va ramasser ce dont on a besoin pour préparer le menu. On cuisine ensemble et on partage le repas. Donc, c'est vrai que ça fait des journées très agréables.
Du coup, qui met la Haute-Marne
En valeur aussi.
Et est-ce que tu arrives à avoir des gens qui viennent un peu d'ailleurs?
Oui, tout à fait. Oui. Ça m'arrive d'avoir... Oui. Alors, je travaille un petit peu avec des agences... de voyage, un petit peu sur l'écotourisme, on va dire. Du coup, voilà, ça arrive que j'ai des groupes qui viennent d'un petit peu partout. Parfois aussi, il y a des voyages organisés, donc des bus, ça arrive. Et puis après, des personnes autour, donc qui viennent de Dijon, Langres, Joinville, les villes autour. Et Paris aussi, quelques Parisiens.
D'accord. Et quand on est donc cueilleuse comme toi, est-ce qu'on croise souvent d'autres cueilleurs dans les bois?
Non. Enfin, je n'en ai jamais croisé.
D'accord.
Ici, en tout cas, autour de chez moi. Oui.
D'accord. Alors, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller dans une partie, tu m'as montré, donc, qui est dans ton séchoir. Du coup, c'est vrai qu'on rentre là-dedans, ça sent vraiment...
Les plantes.
Voilà, ça sent l'herboristerie.
Oui, c'est ça.
Ouais. J'ai connu donc une herboristerie, c'est comme je t'ai dit, ça sent vraiment l'herboristerie.
Oui, oui, oui.
Et du coup, dedans, il y avait donc à la fois des plantes sauvages que tu cueilles et que tu mets dans ce grand séchoir, et aussi des plantes que tu cultives.
C'est ça.
Ça, c'est récent, plus récent.
Oui, donc la production de plantes aromatiques et médicinales, donc là, je me suis installée donc, l'année dernière au mois de mars. Mmh. Donc ça fait un peu plus d'un an.
Voilà, en vue de faire des tisanes.
Alors j'ai créé voilà, une gamme de 9 mélanges de tisanes donc, cette année. Et puis 4 ou 5 plantes unitaires. Et puis je vais étendre la gamme à partir de cette année. Et puis il va y avoir d'autres produits. Donc je pense des sels aux herbes, des huiles de macération solaire. Et puis plus tard, j'aimerais vraiment fabriquer voilà, des teintures mères, des alcoolatures, des macérats glycérinés de bourgeon.
Ça, j'imagine, il faut un laboratoire.
Oui, voilà. Donc ça, c'est dans les projets.
Oui. Et tu dis bourgeon, et c'est que quand tu as évoqué donc, la naturopathie tout à l'heure, tu as parlé de gémothérapie.
Oui.
Là, on peut développer un petit peu.
Oui, sur la gémothérapie. Mmh. Oui. Donc la gémothérapie, c'est une branche donc, de la phytothérapie qui est plutôt récente. Hein, donc ça date 1950 à peu près. Donc c'est le docteur Philippe Adriaan qui a... Parce que ça a d'abord été un autre médecin, et puis après, vraiment, la gémothérapie, c'est vraiment Philippe Adriaan qui l'a mise au point, parce qu'avant, ça appartenait plus, on parlait de phyto-embryothérapie. Mmh. Et là, c'était Paul Henry, et du coup, lui, il l'avait classé côté homéopathie, et donc sous forme beaucoup plus diluée. Et ensuite, donc, c'est devenu la gémothérapie, et c'est passé côté phytothérapie. Mmh. Donc en gémothérapie, en fait, on utilise donc les bourgeons, principalement, mais aussi les jeunes pousses, donc par exemple pour le framboisier, la ronce, et puis pour deux d'entre eux seulement, voilà les radicelles, donc le sorgho et le maïs. On prélève ces bourgeons quand ils sont vraiment à maturité, et en fait on les met à macérer dans 3 solvants, donc l'eau, l'alcool et la glycérine. Et chaque solvant va permettre d'extraire des principes actifs différentes de la plante. Et donc c'est pour ça qu'on a vraiment un produit qui est très, très concentré, puisqu'on va avoir à la fois les propriétés de l'écorce, s'il y en a, de la fleur, des feuilles, etc.
De toute la promesse de la plante.
Voilà, en fait. C'est ça. Mmh. C'est vraiment la plante à son état embryonnaire. Et en dehors des propriétés spécifiques de chaque bourgeon, les bourgeons sont naturellement riches parce qu'en acides aminés, en enzymes, en hormones de croissance, en vitamines, en oligo-éléments, minéraux, etc. Donc, les bourgeons vont augmenter voilà, la vitalité de la personne, et on dit voilà, ça va drainer jusqu'au niveau cellulaire. Mmh. Et après, bon, chaque bourgeon a ses propriétés.
Et ça, c'est en prise quotidienne pendant quelques
temps. Alors, la gémothérapie, en fait, on fonctionne sous forme de cure de 3 semaines. Et on peut faire 3 cures de 3 semaines avec une fenêtre thérapeutique, faire une pause entre chaque cure d'une semaine.
D'accord. Voilà.
Et si besoin. Et après, au bout de ces 3 cures, si on a toujours besoin de prendre ce bourgeon, ben on le prend différemment. On ne peut plus faire des cures de 3 semaines. Enfin, voilà. Donc... on va le prendre une semaine par mois ou 4 jours, 3 jours sur 7. Enfin, voilà, ça va vraiment dépendre des besoins de la personne.
Et c'est intéressant la notion de cellule, en fait.
Oui, oui, oui.
Parce que c'est vrai qu'on on en entend parler. Par exemple, dans la méditation, on dit que ça va...
Oui, mais oui alors, aussi.
Par exemple, comment définir une cellule? C'est quoi pour toi les cellules de notre corps?
C'est la vie, je dirais.
Ouais.
Oui, enfin, c'est le premier mot qui me vient. Mmh, oui. Mais...
C'est rapport à l'ADN ou pas?
Oui.
Parce que tout est cellule dans le vivant, en fait.
Oui, 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 c'est sûr. Mmh. Oui, c'est ce qui donne la vie. Mmh.
Voilà. Oui, donc du coup, c'est vrai que le bourgeon et nos cellules, on sent qu'il y a un côté qui peut régénérer.
Oui, oui, c'est ça.
Ça peut sans doute atteindre, je sais pas, le système nerveux, des choses comme ça.
Alors après, ça, c'est vraiment chaque bourgeon qui va avoir ses spécificités. Certains, comme le bourgeon de Figuier ou de Tilleul, vont traiter plus le système nerveux, le système digestif aussi pour ces deux-là. Et après, on a l'aubépine, par exemple, qui va aussi traiter le système nerveux, dans le sens, voilà, plutôt insomnie, stress, anxiété, palpitations, parce que l'aubépine, c'est la plante du cœur avant tout. Hein, donc, elle va traiter en forme ces formes de somatisation.
Oui, c'est intéressant. Donc, en effet, oui. Tous ces petits symptômes, ces petits bobos, on a tous. Alors, j'imagine, je sais pas, les jambes lourdes.
Oui, voilà. Donc là, le circulatoire, par exemple, on va avoir le bourgeon de marronnier, de sorbier, de châtaignier, hein, qui vont avoir une action très intéressante sur le système circulatoire. C'est la circulation veineuse et lymphatique, pour le coup.
D'accord.
Donc, jambes lourdes aussi, voilà, parce qu'on...
Voilà, tout ça.
Les chaleurs, en ce moment, ça peut occasionner des gènes chez les personnes qui sont sensibles.
Et du coup, on n'a pas développé la partie Reiki, on peut faire un petit...
Oui, donc le Reiki, c'est donc un soin énergétique d'origine japonaise. Donc, d'imposition des mains, donc principalement sur les méridiens ou les chakras, mais pas que. Voilà, il y a aussi d'autres zones et ça va permettre vraiment de mieux faire circuler l'énergie. Et on va agir sur plusieurs plans, donc à la fois le physique, enfin l'émotionnel, le physique et puis d'autres plans aussi, s'il y a des blocages qui sont inscrits ailleurs, on va dire. Donc ça permet vraiment de libérer les tensions et du coup ça apporte vraiment un réel bien-être.
Du coup, tu proposes des solutions assez globales.
Oui, ouais. Oui.
Et une consultation, ça peut durer une heure.
Alors une consultation en Reiki, c'est 1h30. En naturopathie, donc le premier bilan, c'est bien souvent 2h30, voire un peu plus. Parce qu'il faut vraiment, on passe vraiment tout en revue, donc ça peut être long, et puis la personne s'exprime aussi, donc c'est aussi un moment pour pouvoir s'exprimer, et puis dire ce qu'on a envie de dire aussi. Et puis, donc après les suivis, quand il y en a besoin, donc c'est toujours intéressant quand même de faire un suivi, ou parfois une séance suffit, donc c'est pas nécessaire non plus de revenir. Et le suivi, c'est 1h30 à peu près.
Ok. Toi, c'est ta vie, ta pratique, c'est un mode de vie.
Oui, fait. C'est ça. Et puis du coup, là, comme j'ai différentes activités, depuis un an, c'est rajouté la partie agricole. Du coup, là, ça fait pas mal de choses.
Donc, ouais, c'est bien rythmé.
Voilà, c'est ça. Donc, il faut vraiment s'organiser, prioriser. Parce que les plantes, quand elles sont prêtes, quand elles arrivent à maturité, elles n'attendent pas. Donc, il faut
cueillir.
Voilà, on ne se dit pas, j'irai demain ou dans une semaine.
Après, j'imagine qu'il y a quand même quelques mois de l'année où tu ne cueilles pas.
Les cueillettes, ça s'arrête. Donc, les cueillettes, ça commence au mois de mars. Fin février, début mars, et puis j'arrête fin octobre à peu près.
D'accord.
Voilà, avec les baies.
Et c'est là qu'après, je vais pouvoir avoir
donc après, c'est la partie, mise en sachet, etc. Donc il y a toujours à faire, mais c'est quand même un peu plus calme, on va dire, sur la période hivernale.
Et puis toi, évidemment, tu manges à base de plantes,
tu
bois beaucoup.
Oui.
J'ai goûté chez toi, donc c'était super agréable, des plantes infusées à froid.
Oui, aussi. Je connaissais pas. Oui, oui. C'est vrai qu'on connaît moins l'infusion à froid. On a l'habitude de faire chauffer, de mettre les plantes dans de l'eau chaude, de faire infuser, ou les décoctions. Mais les infusions à froid, c'est vraiment très intéressant aussi. Et ça développe vraiment des parfums aussi qui sont vraiment très différents. Très subtil, je trouve.
Ah oui, j'ai goûté ça l'autre jour, c'était agréable.
Oui, oui.
Et c'est vrai qu'on sent que ça, quelque chose, ça fait du bien.
Oui, c'est ça.
Instantanément.
Et du coup, le fait que ça ne chauffe pas, on préserve vraiment toutes les vitamines, notamment la vitamine C, qui est très sensible à la chaleur, mais aussi les autres. Les minéraux, eux, sont moins sensibles à la chaleur, mais les vitamines, bien souvent, sont quand même très sensibles. Donc, dès qu'on chauffe, on va perdre une partie des vitamines.
D'accord,
donc,
c'est bien à savoir.
Donc l'infusion à froid, par contre, c'est une infusion qui ne se garde pas plus de 24 heures. Parce que l'eau, après, il y a un risque de développement microbiologique. Et Donc on met infusé la veille au soir, par exemple, et puis on boit tout au long de la journée, ou le matin, enfin comme on veut. On dit 12 heures, mais moi j'ai constaté qu'au bout de 3 heures, l'infusion est déjà très parfumée. Enfin voilà, il y a déjà plein de choses qui sont extraites quand même, au bout de 3 heures. Donc,
Oui, puis c'est vrai qu'avec cette chaleur du mois de juin 2022... Oui, du coup, ça fait du 2022.
Bien. C'est ça, ça désaltère et ça fait du bien.
Voilà, bah écoute, je crois qu'on a fait un bon petit tour.
Bah, oui, je pense.
Je ne sais pas si on peut rajouter des choses, mais on a bien parlé de ton activité, de ta pratique.
Oui.
Ça donne envie de te rencontrer, en tout cas, je trouve. Et puis, voilà, de faire des marches avec toi, de connaître les propriétés des plantes.
Oui, c'est intéressant, voilà.
On peut peut-être juste revenir sur le mot, parce qu'on avait évoqué quand on s'est vu chez toi le mot herboriste.
Herboriste, voilà. Oui, donc le métier d'herboriste donc, n'est plus reconnu en France depuis 1941, donc sous Vichy. Hein, donc c'est Maréchal Pétain qui a fait disparaître cette profession. Donc les anciens herboristes ont pu, eux, continuer à exercer, mais maintenant, ils sont tous morts aujourd'hui, et donc c'est un métier qui mérite vraiment à être à nouveau reconnu, hein, avec des formations, pour aussi avoir des personnes vraiment qualifiées, hein, qui connaissent les plantes, parce qu'il y a vraiment un regain de la population, enfin une envie d'aller vers les plantes, vers les choses naturelles, mais les plantes c'est pas anodin non plus, hein, donc c'est important de pouvoir se référer à des personnes qui sont qualifiées et qui connaissent vraiment les plantes.
Oui, et en fait tu avais parlé aussi qu'il y a des sortes de contrôles aussi.
Après, oui. Alors, les plantes, ici, en France, quand on est producteur, par exemple, on a 138 plantes aujourd'hui autorisées. Mmh. Hein, le reste est monopole de la pharmacie. Donc, on ne peut pas, par exemple, le pissenlit, qui est une plante... nous, en tant que producteur, on n'a pas le droit de la vendre.
Hein, d'accord. Parce,
voilà, c'est comme ça. Donc, là aussi, il y a notamment le syndicat des simples, hein, qui... Depuis, je pense maintenant, une bonne trentaine d'années, travaille auprès des producteurs pour faire vraiment reconnaître le métier. Il y a un métier aussi qui est en cours de reconnaissance. Donc là aussi, c'est le syndicat des simples qui y travaille. Donc c'est le métier de paysan herboriste. Mmh. Donc finalement, c'est un petit peu ce que je fais aujourd'hui, où je cultive mes plantes et je les vends. Je suis capable d'un minimum les conseiller.
Mais il y a une polémique sur la lavande en ce moment, non?
Oui.
Je vois passer des fois des articles, mais il y a une polémique sur
la lavande. Ils veulent la classer, oui, l'huile essentielle, comme produit dangereux. Mais c'est vraiment dommage.
Oui, pour quelle raison? Parce que la lavande...
Pour quelle raison? Je pense que ça dérange, je ne sais pas vraiment. Alors, c'est vrai que les huiles essentielles, c'est des produits qui sont extrêmement concentrés, à manipuler avec précaution. Après, la lavande, c'est un produit qui a une très bonne innocuité. En tout cas, la lavande vraie ou la lavande fine... on peut l'utiliser sans se mettre en danger. Vraiment, il y a une bonne innocuité. Après, il y a d'autres types de lavande, comme la lavande aspic, qui a manipulé avec plus de précaution, parce qu'elle contient du camphre. Donc le camphre, tout le monde ne peut pas utiliser du camphre, hein, notamment les personnes, les femmes enceintes, les jeunes enfants, les personnes épileptiques, les personnes qui souffrent de fibromyalgie, parce que le camphre, ça va stimuler le système nerveux. Hein, donc dans ces cas-là, on va éviter... Chaud, mais avec la lavande, je sais pas, enfin, je connais pas vraiment la réelle cause de cet acharnement sur nos beaux champs. En plus, fait partie de c'est emblématique.
Quand on arrive dans la Drôme,
mais c'est ça. Oui, oui. Ouais. Du coup, j'imagine qu'il y a des enjeux, mais j'imagine, je peux pas vraiment...
Affaire à suivre, mais c'est bien d'entendre qu'il y a le comité des simples.
Oui, d'ailleurs. Le syndicat des simples.
Le syndicat des simples.
Oui.
Les simples, pour les gens qui ne savent pas, c'est les plantes.
C'est les plantes. Oui.
Les plantes, c'est un joli nom d'ailleurs.
Les plantes tout court.
Les plantes tout court. On appelle ça les simples.
Les simples. Oh. Oui.
Bon, écoute, merci Alexandra.
Avec grand plaisir.
On passera te voir à Montreuil.
Oui, quand tu veux.